Il y a eu également donc des moments difficiles. Bon, il y a eu notamment lorsqu'on était en difficulté au niveau de la place de Brest en termes d'emploi à l'Arsenal, en termes de charges à l'Arsenal, quand la mairie de Brest a été envahie par des métallos qui ont cassé le bureau du maire. Ça a été pour moi donc quelque chose que j'ai très très mal vécu, parce qu'on avait le sentiment que, alors qu'on faisait tout pour apporter des réponses aux problèmes qui étaient posés, on a rencontré des gens donc je ne sais pas trop pourquoi, qui ont voulu casser. Alors que nous étions donc Pierre Maille, moi, mais également les autres élus de la ville de Brest, et nous étions donc les meilleurs défenseurs, en tout cas donc ceux qui recherchaient au mieux de l'activité pour les métallos de la région brestoise. C'est mon pire souvenir.
La grande maison. Histoire d'Arsouille. À retrouver chaque semaine sur Radio U.
On les retrouve en raccourci dans nos petites amours.
Tino Cardraon, bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, je vous demanderai quand est-ce que vous êtes entré à l'Arsenal et quel âge aviez-vous à ce moment-là?
Je suis rentré en 61, le 26 août 61 exactement, l'année 2018 ans, parce que je suis né donc le 30 décembre 43, donc les conditions qu'il fallait remplir, c'était d'avoir 18 ans avant le 31 décembre 68. Donc je suis rentré très jeune comme dessinateur après avoir fait une formation au lycée technique Saint-Joseph à Landerneau, où j'ai fait la mécanique, l'ajustage, l'électricité. Ma carrière à l'Arsenal a été entrecoupée le service militaire. Ensuite, j'ai eu des responsabilités à la JOC sur Brest, où j'étais permanent pendant 2 ans. Et puis ensuite, en 68, je suis devenu permanent syndical. Donc, je n'étais plus en bureau d'études, mais je suivais les problèmes de l'Arsenal, donc en tant que syndicaliste, d'abord 7 ans à Brest et ensuite 8 ans à Paris. Et je suis rentré donc l'année de mes 40 ans, je suis revenu donc travailler à l'Arsenal de Brest, donc pas dans un bureau d'études, mais dans un service qui s'occupait des conditions de travail, de l'hygiène et de la sécurité.
La carrière de Tino Cardraon à l'Arsenal est entrecoupée de nombreuses autres vies syndicales et politiques. Dès 1965, Jean-Noël Cardraon, de son vrai nom, devient responsable de la JOC, Jeunesse ouvrière catholique, mandat qu'il occupe jusqu'en 1967. Il devient ensuite secrétaire général de la CFDT Défense en 1975, et ce pendant 8 ans, jusqu'en 1983, lorsqu'il reprend son poste à l'Arsenal. Encarté parallèlement au Parti socialiste à partir de 1974, il en est le premier secrétaire fédéral pour le Finistère en 1985. En 1989, Pierre Maille, alors élu maire de Brest, en fait son premier adjoint. Enfin, Tino Cardraon est élu en 1997 député du Finistère, unique mandat, par choix, qu'il occupera jusqu'en 2002.
Alors, mon adhésion syndicale est rapide. Est rapide puisque je rentre dans un bureau d'études où il y a un taux de syndicalisation très 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 important. C'est la CGT qui est majoritaire. La CFTC, parce que c'est la CFTC qu'il s'agit à l'époque, est assez minoritaire. Et puis, élevé dans une ambiance judéo-chrétienne, j'avais côtoyé un peu la JOC, donc j'avais une ouverture sur le monde ouvrier et le mouvement ouvrier, ce qui m'a fait donc adhérer à la CFTC, de par mon histoire, et puis par la volonté d'être quand même syndiqué, parce que pour moi à l'époque c'était inenvisageable de ne pas être syndiqué. Et ce n'est que longtemps après que je m'intéresse à la politique et que j'adhère pour plus précisément donc à un parti politique, parce qu'à l'époque, au niveau du syndicalisme, en tout cas à la CFTC, CFDT ensuite, on ne voulait pas mélanger les genres.
D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que du coup, de cet engagement syndical premier, vous êtes allé vers un engagement également politique ?
Ben, en fait, quand on fait du syndicalisme, en tout cas donc le syndicalisme que j'ai fait, moi, je m'occupais d'ailleurs quand j'étais permanent syndical à l'Arsenal de Brest, j'avais également des responsabilités au niveau de l'interprofessionnel et je m'occupais de la formation au niveau de la région Bretagne. Et dans la formation que l'on dispensait, on essayait de faire comprendre à nos responsables que ben, l'action syndicale était quelque chose d'indispensable, mais le syndicalisme à lui tout seul ne pouvait pas modifier le monde. Si bien qu'il y avait une ouverture sur l'aspect politique, également l'aspect économique. C'est surtout ça d'ailleurs qui nous faisait donc toucher du doigt donc tous les aspects politiques et la nécessité qu'il y ait en France des partis de gauche, puisque j'étais de gauche, pour faire bouger les choses. Et c'était un peu ce qui m'intéressait, me préoccupait. Et si bien que je m'intéressais au parti, il y avait l'UDB, consonance très bretonne, le PSU à l'époque, qui m'intéressait un peu, et le Parti socialiste un peu moins, mais en même temps, donc j'avais un peu le sentiment que c'était quand même, il fallait adhérer donc à un grand parti pour faire bouger les choses.
C'est aujourd'hui que l'avenir s'invente, changeons la vie ici et maintenant.
J'ai vécu donc à Paris à l'époque toute la période d'avant 81 et on travaillait beaucoup à la CFDT sur l'arrivée de la gauche et puis les revendications que nous avions pour poser ces revendications-là au niveau à la nouvelle majorité qu'on espérait et sur laquelle je militais en tant qu'adhérent au Parti Socialiste. Mais il y avait donc une attente donc de l'arrivée de la gauche au pouvoir et également donc une attente mais également donc des exigences en termes revendicatifs.
On va du coup revenir un peu en arrière avant votre engagement politique. Comme vous devenez avant en fait secrétaire général de la CFDT Défense. Quel est, vous, votre travail durant ce mandat, en fait, en tant que secrétaire général ?
Bon, alors, c'est l'Arsenal de Brest était l'établissement de la Défense nationale ayant du personnel civil le plus important, donc, au niveau de la France. À peu près à égalité, donc, avec Toulon, voire peut-être Toulon un peu plus important, mais en termes de capacité industrielle, et en termes également, donc, surtout de capacité militante, syndicale, notamment au niveau de la CFDT. La CGT était beaucoup plus importante que nous à Toulon. Mon travail, donc, c'est de découvrir les réalités de la défense nationale en France, parce qu'en fait, il y a énormément de personnel civil. Il y en a dans l'industrie, dans les établissements industriels, de la marine, de l'air et de la terre. Mais il y a également énormément de personnel civil qui travaillent au niveau des états-majors de la marine, de l'armée de l'air et de la terre. Donc je découvre toute cette réalité, donc, on voyage beaucoup à travers la France, parce qu'on a eu, à partir de 68, une avancée des droits syndicaux, avec une possibilité donc beaucoup plus importante de tenir des assemblées générales dans les établissements, si bien que je me déplace beaucoup à travers la France. Partout, quasiment, il y a du personnel civil, j'y vais. Et puis, et également, donc, comme à l'époque, on prend pas l'avion, on prend le train. Je connais à peu près donc tout le réseau routier, tout le réseau ferré en France.
Et est-ce que, du coup, quand vous passez donc de ce mandat de secrétaire général de la CFDT à ensuite votre mandat en tant que secrétaire départemental du PS en 1985, est-ce que à ce moment-là, vous vous éloignez un peu de l'Arsenal et de votre travail spécifique à l'Arsenal pour voilà, élargir à d'autres enjeux politiques?
En fait, quand je reviens en 83, donc de Paris, quand je prends mon, ben, j'occupe un nouveau poste qui n'est pas dans un bureau d'études, je m'occupe beaucoup des problèmes de conditions de travail, plus précisément d'ailleurs avec un collègue du bureau d'études, on travaille du service hygiène sécurité, on travaille sur l'amélioration des conditions de travail dans la prévision de la construction du Charles de Gaulle. Donc je suis durant toute cette période profondément ancré dans les réalités de l'arsenal de Brest et accessoirement, et en dehors du temps de travail, je suis premier secrétaire du PS dans le Finistère. Donc je mène en fait une activité militante assez importante, mais en dehors du temps de travail.
D'accord.
Et je reste. D'ailleurs, le PS finistérien a souhaité que ce soit moi qui prenne le secrétariat à l'époque, parce qu'il y avait. Il y avait beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de professeurs, et il y avait assez peu de syndicalistes qui avaient des responsabilités politiques à l'époque. C'est la raison pour laquelle je suis sollicité pour prendre cette responsabilité.
Ce n'est que lorsqu'il est élu sur la liste de Pierre Maille et devient premier adjoint de la ville de Brest en 1989 que Tino Cardraon met de côté ses responsabilités syndicales.
Alors là, c'est là que les choses se compliquent un peu, parce que dans mon mandat de premier adjoint, j'ai en charge le personnel. Donc j'ai à travailler donc avec les syndicats de la mairie, de la communauté urbaine. Donc là, je passe dans une situation donc un peu difficile à gérer, parce que je suis connu et reconnu comme ancien responsable syndical CFDT. Et les autres syndicats ont un peu le sentiment, ou en tout cas la crainte, que je privilégie donc mon passé syndical à la CFDT. Et paradoxalement, la CFDT a un peu le sentiment que je ne fais pas assez pour la CFDT et que je m'occupe quasiment ou autant que des autres syndicats, de leurs revendications, bien évidemment. Donc, mais bon, c'est quelque chose, j'ai été habitué depuis mon entrée à l'Arsenal, avec les différentes responsabilités, bah, à gérer des situations assez difficiles. Ça a été le cas à Paris, et puis je me retrouve quand même assez à l'aise avec un certain nombre de choses qui me tiennent à cœur. C'est de faire en sorte que les gens qui sont les plus mal classés dans la fonction publique territoriale, et le droit donc à une formation individuelle, et le droit donc et la possibilité d'avoir des promotions à l'intérieur de la mairie et de la communauté urbaine. Voilà, donc je reste quand même donc très fidèle donc à la lutte contre les inégalités et à la volonté de faire bouger les choses.
D'accord. Et cela va continuer du coup en 97 lorsque vous êtes élu député. Est-ce que vous reprenez à un moment donné un engagement syndical entre votre mandat de premier adjoint et votre élection en tant que député?
Non, pas du tout, parce qu'en fait, je reste premier adjoint, y compris donc en 97. Pierre Maille souhaite que je reste premier adjoint, avec des responsabilités moindres, notamment au niveau de la communauté urbaine. Mais je reste... alors, le fait d'être député, je ne paye plus ma retraite personnellement, donc comment m'exprimer. J'étais donc en congé sans salaire, étant donc premier adjoint, et quand je suis élu député, je reviens salarié de l'Arsenal. Je retrouve mon statut d'ouvrier de l'Arsenal, mais sans salaire, bien évidemment, mais avec un déroulement de carrière. Alors, c'est une structure un peu compliquée. Alors, je reste, c'est toute ma vie, l'Arsenal de Brest, je reste très sensible à tout ce qui se passe donc au niveau de l'Arsenal, des Arsenaux et de la Défense. D'ailleurs, je fais partie de la commission de la Défense. Ce qui fait que je suis vraiment, donc, je suis en plein dans les problématiques qui concernent l'Arsenal de Brest. Et surtout qu'à l'époque, l'Arsenal de Brest connaît de grandes difficultés de plan de charge. Et je suis très impliqué dans des négociations au niveau du ministère pour trouver donc de l'activité au niveau de l'Arsenal de Brest en attendant la construction du Charles de Gaulle.
2019, puis à la réunion constitutive tragiques, de l'Assemblée parlementaire franco-allemande à Paris,
le
25 mars 2019.
À leurs proches.
En parallèle, le 22 janvier 2019, nos deux pays se sont retrouvés à
Aix. Les policiers municipaux de Nice,
50 députés français et allemands de l'Assemblée parlementaire franco-allemande sont devenus la force motrice du couple franco-allemand.
Mais nous voulons aller encore plus loin
à des projets ayant une forte
valeur ajoutée.
Le traité prévoit en annexe
pour les générations
complémentaires dynamiques
des domaines principalement visés,
prioritaires sont ceux de la transition énergétique.
On réussit à obtenir la construction de plateformes offshore et on découvre la dure réalité du marché, de la concurrence, des prix qu'il faut tenir. Et on s'aperçoit que le statut étatique des arsenaux est une difficulté pour faire face donc à tout ce que l'on rencontre dans la construction et la concurrence qu'il y a donc au niveau européen, mais également au niveau mondial, pour la construction des bâtiments, qu'ils soient civils ou qu'ils soient militaires, notamment, et y compris militaires. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on réfléchit énormément au niveau national d'une modification du statut, d'une adaptation du statut. Et je suis très impliqué au niveau de cette démarche-là. Et je suis très sensible également à ce que les syndicats, les personnels soient informés de l'évolution de notre réflexion et des propositions que l'on fait pour que le statut étatique soit transformé en société nationale. Je me rappelle d'ailleurs d'avoir été à l'initiative au niveau national d'organiser sur Brest donc une réunion à Pinfeld avec tous les salariés de l'Arsenal, où on explique l'état de nos réflexions et l'état de nos propositions. Et d'ailleurs, cette idée-là que j'ai réalisée donc en relation étroite avec les syndicats, notamment avec la CFDT, les autres syndicats étant plus en retrait, mais tous les syndicats acceptent quand même le principe de cette réunion qui est l'occasion, je crois que c'est près de 2000 personnes qui sont rassemblées à Pinfeld, qui me permettent donc d'expliquer l'état de notre réflexion et puis les propositions donc vers lesquelles on s'achemine. C'est vrai donc au niveau local, mais au niveau national, je suis également très attaché à ce que l'on mette en place quelque chose qui tienne la route. Il y a une idée à un moment donné qui était avancée de faire, de trouver une formule intermédiaire. Alors j'étais en total désaccord. J'ai dit donc il y a déjà suffisamment de réflexion et d'opposition, ou en tout cas d'incertitude et de crainte par rapport au changement de statut. Il faut qu'on trouve quelque chose qui soit vraiment réaliste, mais quelque chose qui dure dans le temps. Éviter de trouver une formule intermédiaire où plus personne n'y comprend rien. Et pour le personnel, c'est également une source d'inquiétude permanente, à savoir est-ce qu'un jour on ne va pas disparaître. C'était ça la hantise, en fait. C'était ça qui occupait donc la tête des gens. Et moi, au niveau national, je reste très très ferme sur le sujet en disant donc si on change de statut, il faut s'orienter vers une société nationale où l'État conserve la majorité des actions. Ce qui se fait.
Le travail déjà accompli par vos collègues. En l'adoptant, vous donnerez à notre Assemblée parlementaire franco-allemande encore davantage de légitimité et d'efficacité pour renforcer son travail. C'est pourquoi je vous demande de soutenir cette résolution. Je vous remercie.
Merci, mes chers collègues. Discussion générale est close.
Dans le livre d'Alain Cabon intitulé « De l'arsenal à l'Assemblée » qui porte sur vous, votre histoire, il est écrit ceci « Origine socio-professionnelle des députés ». En 1997, 17 ouvriers et techniciens, en 2002, 10, en 2007, 5 et en 2012, 4. Qu'a signifié pour vous être député ouvrier lorsque vous êtes élu à l'Assemblée?
Ben, pour moi, c'est un aboutissement. C'est un aboutissement, donc, je le disais donc, au début de l'interview, que quand j'étais syndicaliste, pour moi, donc, le politique était important, c'était un prolongement et c'était donc un complément à l'action au sein du mouvement ouvrier. Et le fait d'être élu comme député, quasiment seul ouvrier ou en tout cas donc d'origine ouvrière, pour moi, c'est un engagement et une obligation d'être très sensible à tout ce qui concerne le monde ouvrier et principalement donc celui d'où je viens, donc les arsenaux de la marine, de la terre et de l'air. Pour moi, c'est un aboutissement, mais c'est également donc pour moi la priorité de mon action au sein de l'Assemblée. D'autant que, en général, les députés qui sont élus là où il y a des arsenaux, de la marine notamment, ils sont présents au niveau de la commission de la défense et on aborde tous les problèmes qui se posent dans les arsenaux, les problèmes d'emploi, mais également les problèmes de personnel et les problèmes d'avenir.
Du coup, juste pour... Pour terminer, on a vu, même sans arriver jusqu'à la députation, on a vu de nombreux ouvriers de l'arsenal accéder à des responsabilités politiques ou syndicales. D'où venait cette tendance en fait qu'est-ce qui faisait qu'à l'arsenal, tant d'ouvriers se sont mis en fait à accéder à ces postes-là?
Je pense que il y a une ce que l'on retrouve dans les arsenaux, en général en France, mais principalement à la marine, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, un fort taux de syndicalisation. À titre d'exemple, une élection syndicale en 74 ou 75, la CFDT recueille 3200 voix aux élections et on a 3200 adhérents. Ça montre en fait le fort taux de syndicalisation et une conscience syndicale très très importante. Dans cette conscience syndicale, il y a également donc une réflexion sur l'avenir du pays, et en quelque sorte donc les aspects politiques. Et je crois que moi, quand je suis rentré en 61, j'ai découvert ce monde-là. Mais avant que je rentre à l'Arsenal, depuis déjà des dizaines d'années, il y avait donc ce fort taux de prise de syndicalisation, d'abord, mais également de prise de conscience que le monde, il faut le changer. Et que pour changer le monde, il faut qu'il y ait des partis politiques qui représentent donc la classe ouvrière. Et à titre d'exemple, le premier maire de gauche qu'il y a eu à Brest après la guerre, c'est Francis Leblé. Francis Leblé qui était donc chef de travaux et puis ensuite ingénieur civil donc à l'Arsenal de Brest. Il était syndicaliste. Il a adhéré au Parti Socialiste. Et c'est lui, d'ailleurs, qui est un des membres fondateurs du Parti Socialiste à Brest. Donc, tout ça pour expliquer que il y a des choses qui sont assez logiques. Bon, on fait du syndicalisme. Et puis après, assez normalement, donc, quand on a abandonné ses responsabilités syndicales, on s'oriente vers la politique. En tout cas, donc c'est l'ambiance que j'ai trouvée moi, et c'est un peu ce qui explique mon évolution donc de 61 jusqu'à mon départ en retraite en 2002.
D'accord. Et donc à la fin de votre mandat de député, vous revenez à l'Arsenal ou pas ?
Non. En fait, j'expliquais tout à l'heure qu'on se trouvait dans les années 97, avec des problèmes importants d'emploi sur Brest, mais on trouvait également ces mêmes problèmes d'emploi dans beaucoup d'établissements de la Défense. Et Alain Richard, qui a été ministre de la Défense, avec qui j'ai beaucoup travaillé, il a décidé de réduire les effectifs en permettant à des gens de partir en retraite à 52 ans. Et moi, donc, j'ai profité un peu de cette possibilité. Et en 98, j'ai fait valoir mes droits à la retraite. Et donc, quand j'ai fini mon mandat de député, j'étais déjà retraité de l'Arsenal. Donc, il n'y a pas eu... et c'est un peu la raison pour laquelle j'ai décidé de ne faire qu'un seul mandat. J'ai toujours eu... Je le dis d'ailleurs dans le livre que j'ai coécrit avec Alain Cabon, parce qu'Alain Cabon, alors c'est lui qui a mis en forme, mais c'est moi qui ai écrit. Il aurait pu avoir quasiment de quoi faire deux tomes d'ailleurs. Mais en tout cas, j'essaie d'expliquer donc en fait que moi, durant ma vie militante, j'ai toujours eu le souci de, un, de partager les responsabilités, et deux, de préparer toujours ma relève. J'avais toujours ça en tête, en disant on n'est pas. On ne peut pas rester indéfiniment aux mêmes responsabilités. Donc, d'avoir toujours une idée sur éventuellement qui peut me remplacer. Donc, cette démarche-là, c'est de dire on n'est pas là indéfiniment comme élu, comme responsable syndical ou comme élu. Et donc, à un moment donné, il faut passer le relais. Puis, j'avais décidé qu'à mes 60 ans, 15 ans, j'avais fait 15 ans de syndicalisme. Ensuite, 15 ans de responsabilité politique, je dis il faut passer le relais.
La Grande Maison, une émission de Martin, Cause et Léouette, à retrouver chaque semaine sur Radio U.
On les retrouve en raccourci dans nos petites amours d'un jour. Toutes les joies, tous les soucis, des amours qui durent toujours. C'est là le sort de la marine et de toutes nos petites chéries. On accoste vite un bec pour nos baisers le corps avec. Et les joies et les bouderies, les fâcheries, les bons retours. Y a tout ça en raccourci.